n'ai pas pris les Écritures du jour, mais je vous propose deux textes. Le premier, qui est dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Divers modes d'action, mais c'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui produit tout et tout en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. L'Esprit donne un message de sagesse à l'un et de science à l'autre. Un autre, le même Esprit, donne la foi. Un autre encore, le seul et même Esprit, accorde des dons de guérison. Un autre, le pouvoir de faire des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, le don de parler en langue. Un autre encore, celui des interpréter. Mais tout cela est le seul et le même esprit qui le produit, distribuant à chacun les dons selon sa volonté. Et le second texte est dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au servant « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune 2 ou 3 mesures. Jésus dit aux servants, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, maintenant puisez et portez-en au maître d'eau. Ils lui emportèrent, et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des servants qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adressa au marié et lui dit, tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont pris, il fait servir le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils n'y restèrent que quelques jours. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Ta parole est une lampe à méditer, une lumière sur mon sentier. Alors, avant d'écouter une méditation que je proposais de partager avec moi, j'aime bien citer quand même mes sources. Et là, j'ai travaillé ces deux textes avec Guillaume de Clairvaux, Vincent Lebac et Arthur Joly, pasteur de Robinson. Donc, si pour certains, vous trouvez des choses que vous avez entendues ailleurs, c'est normal, voilà le point de qui je me suis inspiré. Deuxième chose, c'est là, traditionnellement, notamment sur les noces de Cana, c'est un texte qui a l'air parce qu'il débute l'évangile de Jean par une fête.
Par des moments joyeux, par l'alliance entre deux personnes, et donc on pourrait dériver après sur l'alliance de deux avec son peuple, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas la réflexion que je vais vous proposer aujourd'hui. En plus de ça, j'ai pris deux textes et je vais essayer de vous montrer comment l'un peut se répercuter sur l'autre. Donc, cette histoire des noces de Cana, nous ne la retrouvons dans aucun autre évangile, et c'est un moment un peu particulier, et à mon sens, à plus d'un titre. Et je vais vous proposer aujourd'hui de regarder ce texte à partir des acteurs qui racontent et qui composent cette histoire. En premier lieu, le premier, bien sûr, auquel on peut faire attention, c'est Jésus. C'est celui qui nous paraît sans doute le plus évident de démarrer par lui. Après tout, il s'agit sans doute de son premier miracle. Il est encore discret, tout juste baptisé lors du chapitre précédent, entouré de ses premiers disciples qu'il est allé chercher aussi au chapitre précédent. Et on pourrait dire qu'il fait ses premières armes, si vous me passez l'expression. Peut-être qu'il essaie, comme le prophète Jérémie, de dire qu'il est trop petit pour la mission qu'il sent qu'il lui est confiée. « Ce n'est pas encore le moment pour moi », dit-il à sa mère. Tiens, sa mère, justement, Marie. D'ailleurs, elle est à l'honneur. Elle est invitée avant Jésus dans le texte. Laisse supposer qu'elle était plus ou moins de la famille, ou du moins qu'elle faisait partie de l'entourage proche des gens qui se mariaient. Même renvoyée par son fils, elle cherche à lui faciliter la tâche en prévenant les serviteurs du banquet, parce qu'elle se doute sans aucun doute qu'il va se passer des choses derrière. Un tout petit détail, il faut souligner quand même que dans l'évangile de Jean, Marie n'est jamais citée autrement que la mère de Jésus. Et elle n'est citée que deux fois dans cet évangile. Là, au chapitre que nous venons de voir, au début de l'évangile, et la seconde fois au chapitre 19, au verset 25, près de la croix de Jésus, se tenait debout sa mère, sa sœur et la sœur de sa mère. Comme si Marie ouvrait, j'appellerai la parenthèse de Jésus sur terre, et au pied de la croix, la refermait. Mais continuons avec les acteurs de cette histoire. Les mariés. Je n'ai jamais entendu parler de mariés, j'ai jamais entendu cette prédication sur les noces de Cana à l'occasion de mariage. C'est étonnant. C'est à peine... Par contre, si l'évangéliste évoque le marié, et ce uniquement pour souligner qu'il n'a pas été très prévoyant pour ajuster les provisions de vin. Enfin, toute personne ici qui a eu l'occasion d'organiser un mariage ou une grande fête sait que c'est toujours très difficile d'avoir la bonne quantité, soit d'eau, soit de vin, soit de... Ça dépend du nombre d'invités, de leur humeur, de la chaleur, de la durée de la fête, etc. Parmi les acteurs, je pourrais aussi citer le responsable du banquet. Je ne vous le recommanderais pas si vous avez une fête à préparer. Il est visiblement nul, il n'a rien aimé, il n'a rien compris sur cette affaire d'eau qui change en vin. Tous ces personnages sont présents dans le récit de Jean. Et pourtant, ce n'est pas eux qui me semblent être les plus importants et dont je voudrais... un petit peu plus parler aujourd'hui. Non, les personnes qui m'intéressent dans ce texte, je ne les ai pas encore citées. Qui reste-t-il? Bien sûr, les serviteurs. On ne les voit pas. Ils ne comptent pas. On ne sait même pas combien ils sont, on ne sait pas qui sont leurs noms. C'est sans doute des esclaves ou des anciens esclaves qui ont été affranchis. Ils sont là. Et pourtant, ce sont eux qui sont essentiels. Ils sont essentiels à la vie de la maison, au bon déroulement des noces. Ce sont des personnes qu'on ne voit pas, qu'on ne doit pas voir, qu'on appelle seulement pour leur donner des ordres. Ils sont habitués. C'est sans doute, comme je vous l'ai dit, des esclaves. Avez-vous remarqué... comme tous les serviteurs on en a vraiment besoin. Ils sont partout. Ils sont là, ils savent tout. Avez-vous remarqué l'étendue des connaissances d'une secrétaire dans un bureau médical ? Et pourtant, on ne la voit pas. Dans un office notarial, par exemple. Dans une direction d'entreprise ou simplement dans notre église, qui est capable de donner le nom de la secrétaire du conseil régional. Jésus, nous l'avons dit, est particulièrement discret. Son ministère n'est pas encore commencé. On pourrait dire qu'il n'est pas encore sûr de sa mission, qu'il a un peu le trac. Même quand sa mère vient le voir pour lui signifier l'occasion parfaite pour un miracle, il la renvoie. Alors Jésus choisit la discrétion pour son premier miracle et les personnes qui vont l'aider à le faire sont bien ceux qui sont les plus discrets, c'est-à-dire mes serviteurs. Ils ne lui tiendront pas tête, puisque tout le monde leur donne des ordres. Ils obéissent. Et pourtant, ce que leur demande Jésus n'est ni simple ni habituel. Les jarres pour les purifications ont été utilisées, elles ont été nettoyées, et puis sans aucun doute préparées avec soin pour leur prochaine utilisation. Et elles sont énormes. Et les remplir à nouveau a dû prendre beaucoup de temps. L'eau courante n'existait pas. Il fallait donc aller au puits. Et les serviteurs ont tiré du puits les 600 litres d'eau dont il a fallu pour remplir ces récipients. Et ils l'ont fait, sans sourciller, sans rien dire. Pourtant, ce Jésus, les serviteurs ne le connaissent pas. C'est un invité parmi les autres. On pourrait imaginer qu'il puisse refuser d'obéir à des ordres qui lui paraissent sans objet, anachroniques. Et puis avoir peur, éventuellement, de la réaction du maître de maison. On peut aussi penser qu'ils prennent Jésus pour un illuminé quand celui-ci leur demande de puiser l'eau et d'en apporter aux responsables pour qu'ils la goûtent. Qu'espère-t-il cet étranger avec une eau ordinaire ? Et là, c'est le miracle qui s'opère. Les serviteurs sont les premiers à le réaliser. Ils sont aux premières loges. Ils n'en ont pas l'habitude. Ainsi, sur des ordres étranges, des demandes sans queue ni tête, cet étranger a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas seulement un étranger, ce n'est pas un excentrique. Finalement, Jésus leur a donné cette chance. Les serviteurs ne sont-ils pas alors les premiers croyants ? Avant même les disciples, qui, eux, ont observé la scène de loin, et ne sont que les témoins de ce signe de la gloire de Jésus. Alors, pour poursuivre un petit peu cette réflexion sur les serviteurs, il y a l'autre texte, celui de l'épître de Paul. L'église de Corinthe est connue pour ses divisions et pour son goût immodéré envers tout ce qui est spectaculaire. Les sœurs et frères y apprécient les démonstrations de foi charismatiques, les manifestations exubérantes de l'Esprit Saint faisant parler en langue les croyants ou prophétiser certains d'entre eux. Quel est le discours de Paul à leur égard ? Il tient en trois points qu'il répète sous différentes formes : diversité, unité, esprit. Dans ses lettres, Paul aime répéter ses arguments plusieurs fois et de différentes manières. Paul met d'abord en exergue la diversité des dons octroyés à chaque personne. Aucun de nous n'est identique à son voisin. Ici, aujourd'hui, ou dans notre famille, ou à l'école, au travail. Même parmi les vrais jumeaux ou triplés, aucun individu n'est identique à son frère ou à sa sœur. Il y a toujours une diversité de caractères, de goûts, de capacités. Cette diversité, ces dons et talents multiples qui nous sont octroyés ne doivent pas servir à la division. Un peu plus loin dans sa lettre, Paul dira que nous ne pouvons pas comparer les capacités que nous avons reçues et dire que nous n'avons pas besoin des autres. Il en identifie plusieurs, et vous les reconnaîtrez sans doute, en vous ou autour de vous. La sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, la prophétie, le discernement. Cette diversité de dons, c'est ce qui fait la force de ce qui rend l'Église unique. Et lorsque nous rassemblons nos charismes, que nous pouvons être une communauté. C'est lorsque des talents sont unifiés qu'ils peuvent constituer une force. Vous avez peut-être acheté la Bible manuscrite, celle aussi à qui on a donné comme surnom la Bible déconfinée, et qui a été écrite et illustrée par des centaines de personnes un peu partout dans le monde pendant le temps du confinement de 2020. C'est le genre de choses qui arrivent lorsque les talents sont réunis. C'est lorsque nous reconnaissons notre diversité que nous pouvons apporter de quoi construire l'unité. Et au-delà de ces aspects apparemment antagonistes, Paul apporte le troisième, l'Esprit. Si nous reconnaissons l'action de cet Esprit en nous et parmi nous, nous aurons l'énergie et la foi pour vivre l'unité de notre Église dans la diversité de nos existences. Tout cela est très bien, me direz-vous, mais on ne voit toujours pas le rapport entre les noces de Cana d'une part et la diversité de l'unité dans l'esprit prôné par Paul d'autre part. Quel rapport entre les serviteurs et les charismes de chacun? Peut-être le voyez-vous se dessiner ce lien. Ce que Paul nous demande, n'est-ce pas d'être peu ou prou les serviteurs de l'esprit? Peu ou prou les serviteurs de l'esprit qui ne souhaitent rien d'autre que de créer des signes parmi nous. Comme les serviteurs ont obéi à Jésus, Paul nous suggère de nous laisser habiter par l'Esprit pour permettre aux dons qui nous sont octroyés de pouvoir se développer. Comme les serviteurs, saurons-nous mettre en œuvre ces qualités d'humilité, d'écoute, qui permettent de percevoir ce qui se déroule sous nos yeux. Paul ne suggère-t-il pas, lorsqu'il parle de l'Esprit unique qui distribue ses dons à chacun, d'accepter ce que nous recevons individuellement pour le mettre au service de la communauté, d'une unité et d'un bien commun? Comme les serviteurs, soyons aux premières loges des signes qui se réalisent devant nous et sachons en témoigner. Amen.